Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Pour ce nouvel épisode témoignage, vous allez entendre trois personnes qui racontent les discriminations qu'elles ont subies lors de leurs études supérieures. Que ce soit en IUT, en licence ou en prépa littéraire, ces témoignages montrent encore une fois que quel que soit le domaine, rien n'est pensé pour les personnes handicapées. Trigger warning, le dernier témoignage mentionne une tentative de suicide.
Lorsque j'étais en DUT en Île-de-France, mon IUT, l'établissement scolaire dans lequel j'étais donc, était rattaché à la faculté de Paris 8. Je suis en fait, un étudiant handicapé et j'ai des difficultés à suivre le rythme des cours des valides. Dans ce cadre-là, j'avais demandé une dispense d'assiduité et aussi de porter des écouteurs en cours et bien évidemment j'avais demandé à ce que quelqu'un prenne des notes pour moi. À l'université de Paris 8, on appelle ça une demande de PAEH et comme mon IUT était rattaché à Paris 8, en fait il fallait que je fasse une demande à la faculté de Paris 8 au service handicap directement et que je voie un médecin là-bas, le médecin de Paris 8. Donc je vais le voir, tout se passe bien, j'ai le droit à ma dispense d'assiduité, la prise de notes, enfin en fait il coche tous les aménagements demandés. Et pour ça, il faut que j'envoie un mail à un autre service handicap pour la prise de notes où je spécifie certaines choses. Donc je regarde le document et là j'ai un gros problème, je me rends compte qu'il me demande mon emploi du temps. Et autant à la fac on a un emploi du temps, autant en IUT, pas du tout. Notre emploi du temps, il change chaque semaine, donc c'est littéralement impossible de noter notre emploi du temps pour la demande de prise de notes en cours, parce que c'est extrêmement régulé de manière stricte, et ils veulent vraiment chaque horaire, chaque cours, chaque professeur, etc., etc. Et impossible pour moi de le faire. Du coup, mon témoignage, je l'ai dit, c'est validisme administratif et discrimination de classe. Donc je vais expliquer pourquoi. En fait, c'était pas un validisme malveillant, c'était pas fait pour, mais c'était du validisme administratif parce que du coup, en fait, les points administratifs qu'on me demandait, ils étaient impossibles à faire pour moi. Et c'est en ça que c'est de la discrimination de classe parce que évidemment, si tout est pensé pour les élèves, enfin les étudiants qui vont en faculté, pour les élèves qui vont en IUT, c'est impossible à tenir. Et on sait très bien que les personnes qui sont en IUT, sont pas les mêmes classes sociales que celles qui vont à la fac. Du coup, ce qui est adapté pour la faculté ne l'est pas pour les IUT. Et ça, c'est un gros problème, en fait. Parce que, du coup, en fonction des classes sociales d'où on vient, on a plus de chances de finir en IUT qu'à la fac, selon notre classe sociale. Et finalement, les dispositifs qui sont mis en place pour la faculté ne le sont pas pour les IUT. Et du coup, ça a été impossible pour moi d'avoir quelqu'un qui fasse de la prise de notes durant toute l'année. Ça a été impossible. Du coup, j'ai jamais eu de la prise de notes et j'ai dû demander à des étudiants de prendre des notes pour moi. Mais ils n'étaient pas payés pour ça. Alors que normalement, à la fac, quand on est handicapé, on a le droit à des gens qui font de la prise de notes, mais qui sont payés pour ça. Donc le travail est de meilleure qualité. Mon dernier point, c'est sur la dispense d'assiduité. Alors, j'ai mis un an à l'avoir, alors qu'elle avait été acceptée dès la première année de DUT. Donc, dès le début, elle avait été acceptée. Et en fait, c'était pas dû à de la malveillance ou quoi. C'est juste que mon IUT est extrêmement strict sur les absences, même justifiées de manière médicale. On n'a pas le droit à plus d'un, 20 heures d'absence, ce qui équivaut à littéralement 2 jours de cours. Donc, c'est très peu. Du coup, ils voulaient pas me laisser à dispenser de cours parce qu'en fait, ils avaient pas compris que ma dispense d'assiduité servait à être dispensée des horaires de cours de valide. Et du coup, pendant un an, ils me l'ont refusé alors que j'avais la validation de Paris 8. Et au final, ils l'ont accepté un an plus tard quand ils se sont renseignés sur le sujet.
Alors moi, je souhaiterais témoigner sur le thème des études supérieures et du handicap. Alors déjà, c'est un sacré parcours pour réussir à en arriver aux études supérieures. Alors, je voudrais surtout parler d'une expérience de discrimination que j'ai vécue lors de ma deuxième année de licence. Il faut savoir que j'étais en licence sciences de la vie et de la terre et que dans une matière, il y avait une sortie qui était programmée et cette sortie était notée. Mais sauf qu'elle était organisée sur toute une après-midi et ne pouvant pas marcher pendant toute une après-midi, j'ai demandé au prof en lui envoyant un mail, qui était aussi responsable de la licence, si cette sortie était accessible en fauteuil. Et il connaissait bien le problème de santé, donc voilà. Et celui-ci m'a répondu qu'il était désolé que de mon état soit dégradé, alors qu'il n'était pas dégradé, c'était juste que quand je venais à la fac, je marchais parce que j'étais juste sur le campus, mais en dehors, je pouvais pas marcher plus, quoi. Et que non, la sortie n'était pas accessible. Donc, j'ai pas la sortie, si c'est pas accessible, je peux pas marcher. Enfin, et quand j'ai reçu mon bulletin, j'ai eu la surprise de voir que je n'avais pas validé cette matière-là, alors que ma note au partiel était supérieure à 10. En fait, j'étais notée absente pour la sortie, mais c'était une absence qui comptait comme un zéro. Et quand j'ai demandé des explications, j'ai jamais eu de réponse. Donc mes parents ont saisi le droit des hommes, mais la fac ne leur a jamais répondu. Heureusement, j'ai eu de la chance après de valider par compensation et de finir ma licence dans une autre fac, parce que vraiment, j'ai que eu des emmerdes dans cette fac.
Coucou, alors pour les quelques indices qui ont échappé à cette histoire qui s'est passée il y a 5 ans, on va vous parler de la déplorable histoire du CubeGate, comme je l'appelle. Bon alors, dans le jargon des classes préparatoires, cubé ça veut dire répéter la deuxième année de la prépa. Ici, j'étais en prépa littéraire pour avoir les concours. Donc on est en 2018 et je voulais vraiment avoir le NS de Lyon, c'était le but de ma vie. Et en plus, ma crush voulait cubé aussi, et elle a cubé, et elle a eu le NS, mais je suis pas sortie avec. Et on nous a expliqué qu'il fallait être sous-admissible, donc en quoi dans le premier tiers au concours, pour le faire. Sauf que j'apprends avec la gueule de bois du bal de fin d'année qu'ils m'ont refusé, même sans m'avoir consulté ni rien, histoire de bien m'enfoncer en plus, ils rajoutent non admise à QB sur mon bulletin. Mais déjà à l'époque, il y avait des trucs louches, rien que le fait qu'on attende pas nos résultats, alors qu'on m'avait clairement dit qu'il fallait avoir des bonnes notes au concours. Mais surtout, t'as les délégués qui m'ont avoué qu'on les a fait sortir de la classe au moment des délibérations et qu'on les a fait rentrer quand ils avaient déjà pris leur décision. Donc déjà, tu sentais qu'ils faisaient un truc pas très légal. Bon, évidemment, dans ma tête, c'était la fin, surtout que, en plus, j'étais amoureuse, je voulais vraiment ce concours. Et les profs me soutenaient pas. Sauf que, retournement de situation, je suis sous-admissible. On passait la célébration et l'auto-congratulation d'avoir mis un immense doigt dans leurs attentes. Je leur demande quand même si je peux cuber, vu que c'est bon, je suis sous-admissible, j'ai le droit. Bon, et là, le doute sur l'impunité totale du lycée Federbe de Lille apparaît au grand jour. Ouais, je vais pas hésiter à les afficher, hein, j'en ai plus rien à foutre. S'ils m'ont pas pris, c'est parce que j'avais un diagnostic d'autisme et que j'avais des aménagements, et que j'arrivais pas à faire les oraux, et que quand même c'était pénible. Ils me l'ont avoué, hein, ma prof de français, elle... m'a sorti des trucs du style « Non mais on va prendre que 5 personnes, non mais avec votre handicap, on devait plus s'occuper de vous pour les autres élèves, donc si vous voulez vraiment cuber, vous avez qu'à déménager. » J'ai dit « Mais j'ai pas envie de déménager, ah bah c'est que vous voulez pas vraiment cuber alors. » Et j'apprends pas longtemps après qu'ils ont pris plus que 5 personnes. Ils ont accepté en cube des gens qui avaient bien moins réussi les concours que moi, mais qui étaient valides. Donc là, moi et mes parents, ils comprennent qu'on s'est foutu de notre gueule. Et ils écrivent à tous mes profs, un par un, pour leur passer un savon, en précisant que manque de peau pour eux. Mon prof, c'est lui-même un prof des universités, donc un mec qui connaît le système. Et il a lâché ce passif agressif, on ne porte pas plainte, mais on pourrait. Bah, leur silence était un aveu quand même, personne n'a répondu. Et on leur a dit, mes parents ont dit, c'est de la discrimination, bah, ils ont pas nié. Bon, sur le moment, j'avais super honte de m'être fait refouler comme ça. J'étais affreusement déprimée au point que, une fois à la fac, je pensais ne pas avoir mes licences. Bon, au final, je l'ai énervé, mais cette histoire, j'en ai absolument rien à foutre, j'ai réussi mes études. Finalement, j'ai été prise dans la meilleure prépa grecque de France, alors qu'ils m'ont dit explicitement qu'ils pensaient que j'aurais jamais la grecque. Finalement, je l'ai pas passée, je suis allée en Sciences Po à la place. Et c'est bouffon pour ôter quelques doutes. Ils ont aussi empêché de cuber un pote à moi qui, lui, était plus doué. Il était troisième de notre classe en première année. Mais comme il a fait une crise d'angoisse au concours, bah les mecs ils l'ont pas pris et lui elle est cubée ailleurs et il est arrivé sixième au CAPES. Des génies, on vous dit. Mais cette histoire est passée à la postérité car ma famille, mes potes de la prépa, s'en souviennent et ils racontent régulièrement la pathétique histoire de Federbe et du Cubegate et sur comment j'aurais pu porter plainte et gagner, mais je l'ai pas fait. Mais en fait, quelque part, je suis fière que cette histoire, on l'ait racontée à tant de gens. Je suis passée à la postérité et finalement, Federbe sont clairement les méchants de l'affaire. Mais je finirai quand même sur une note pas très drôle parce que j'avais envie de mourir, vraiment. Et c'est peut-être le plus grave, c'est qu'après ma tentative de suicide, on m'a convoqué dans le bureau pour me préciser que quand même, mes notes, j'étais sûrement surnotée. Après ma tentative de suicide. Au revoir à tous et bonne soirée.
Pour terminer cet épisode, je voulais parler d'un sujet qui ne concerne pas directement les études supérieures, mais qui est en lien puisque avant d'arriver aux études supérieures, il faut déjà être scolarisé en primaire, en collège et en lycée, et que à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est le 12 janvier, et le syndicat Force Ouvrière appelle à la grève et à la manifestation le 25 janvier contre l'inclusion systématique des enfants handicapés en milieu ordinaire. Donc la manifestation sera déjà passée quand cet épisode sortira, mais je pense que c'est très important d'en parler, sachant que je pense que très peu de médias généralistes vont en parler et que, encore une fois, ce sont toujours les personnes concernées qui en parlent. Mais vraiment, c'est extrêmement grave et je devrais même pas avoir à expliquer en quoi c'est extrêmement grave et ça devrait même pas être un débat. L'inclusion des enfants handicapés en école ordinaire. Mais en 2024, c'est toujours un débat, apparemment. Donc, pour rappel, l'exclusion des enfants handicapés du milieu ordinaire, ça veut dire le placement de ces enfants en IME et en institution. Et les IME et les institutions ne sont pas des écoles. Les heures de cours y sont quasiment inexistantes et quand cours il y a, le niveau des cours est très bas. Sans parler du fait que les institutions sont des viviers de violence et de maltraitance et que la pédocriminalité y est très élevée et que ça fait plusieurs années déjà que la France se fait rappeler à l'ordre par l'ONU qui lui demande de fermer ses institutions justement à cause de ces violences. Et à cause de ces maltraitances, je ne dis pas que les conditions de travail des profs à l'éducation nationale ne sont pas désastreuses et compliquées, et etc., etc. Mais tout ça, ce n'est pas la faute des enfants handicapés. Exclure les enfants handicapés des écoles ordinaires ne résoudra pas le problème de l'éducation nationale. Si vous cherchez un coupable, regardez plutôt du côté de Macron et de ses gouvernements à répétition qui détruisent le service public. Peut-être une idée comme ça. Encore une fois, les privilégiés qui prennent les minorités comme bouc émissaire, et plus particulièrement les personnes handicapées, c'est toujours le même problème, c'est toujours le même argument de « c'est trop compliqué de s'adapter aux personnes handicapées ». Ça coûte trop cher, et encore une fois, c'est toujours ce même message de les personnes handicapées sont un poids pour la société, et les personnes handicapées dérangent, et on ne veut pas les voir. C'est ça que cet appel à manifester renvoie comme message, le fait qu'on préfère que les enfants handicapés soient enfermés dans des institutions comme des animaux, plutôt que d'être traités comme des humains et avoir accès à des droits basiques qui est, je le rappelle, juste un droit à l'éducation. Et j'aimerais rajouter aussi, parce que j'ai vu pas mal de témoignages de parents d'enfants handicapés qui disent que leurs enfants se font harceler à l'école parce qu'ils sont handicapés ou sont moqués, etc. et se disent que peut-être leur enfant serait mieux en IME avec des enfants qui leur ressemblent. Et j'aimerais juste dire que, en plus de la pédocriminalité, de maltraitance et du manque d'hygiène, et etc., etc., le harcèlement peut aussi se faire entre enfants handicapés. les IME ne sont pas le monde des bisounours. Il faut vraiment arrêter de d'essentialiser les personnes handicapées et de tous nous mettre dans le même sac et de nous infantiliser et de penser qu'on ne fera jamais de mal à une mouche, en fait. Il y a vraiment rien qui va dans ce discours pro-institution. Et l'exclusion des enfants handicapés, des personnes handicapées et des minorités en général, l'exclusion et l'enfermement ne seront jamais, mais vraiment jamais, des solutions et quelque chose de positif. Vraiment. Je pense que je vais m'arrêter là sur ce sujet et que je vais du coup conclure cet épisode. Merci aux personnes qui ont témoigné dans cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté, et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode Recommandations culturelles.